Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Au service de votre informatique, du conseil, de la formation, du développement et de l'assistance, Jean-Louis Touchard est consultant informatique et décide de développer Hydromel sur la Biovallée.
Hydromel propose des prestations et des solutions opérationnelles en informatique avec une particularité vers l'informatique durable. Alors l'informatique durable, c'est par exemple proposer du matériel reconditionné aussi bien à des TPE, PME, voire des particuliers ou des collectivités. Il faut savoir que la législation française permet donc aux sociétés, aux grands comptes, de pouvoir amortir le matériel informatique en 3 ans. Que devient ce matériel informatique après 3 ans ? Bon, il y a quelques années, ce matériel était purement et simplement jeté et ou exporté vers des pays du tiers-monde. Et maintenant, depuis la loi Ordi 2.0 qui est sortie en 2008, il y a obligation, je dirais, de retraiter ce matériel. Donc soit par recyclage, si ce matériel est trop âgé, trop vieux, ou alors possibilité aussi donc de récupérer ce matériel, de le démonter, de le nettoyer, de le contrôler et de le proposer de nouveau à la vente à des prix défiant toute concurrence. Donc ça, c'est une partie de l'informatique durable. L'autre partie, elle est plus logicielle. C'est ce qui va permettre à une entreprise de pouvoir répondre à ses besoins, de travailler avec des outils de comptabilité, des outils de gestion commerciale. Et sur le marché, on commence à trouver des solutions qui sont très bien faites et vraiment à très très faible coût. J'ai pris un second statut d'auto-entrepreneur avec le service à la personne afin de faire bénéficier aux particuliers du crédit 50%, ce qui leur permet d'avoir de la formation à domicile, puisque je me déplace chez les particuliers, quand même à des coûts intéressants. Le système d'entrepreneuriat salarié permet donc de tester son activité professionnelle avant vraiment de se lancer. Donc on a signé ce qu'on appelle un contrat CAP, c'est un contrat d'aide au projet d'entreprise, et donc cela permet donc, tout en continuant à toucher son chômage, de pouvoir tester si votre activité professionnelle peut fonctionner de façon correcte. C'est vrai que Biovallée, bon, et aussi l'éco-site d'Eure est quand même une plaque tournante très intéressante entre la vallée du Rhône et le Diois, n'est-ce pas ? Et donc c'est un point, je pense, assez stratégique pour pouvoir continuer le développement professionnel. J'ai commencé à entreprendre avec des autres entrepreneurs salariés qui sont informaticiens, un partenariat, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se posait souvent les mêmes questions lors d'un séminaire. Et au lieu de se voir en concurrence, et plutôt en confrère, cela nous apporte quand même beaucoup d'avantages. On est moins isolé. On se réunit régulièrement une fois par mois. On met des stratégies techniques en place de telle façon à pouvoir répondre à nos clients. Nous pouvons gérer des projets beaucoup plus importants. C'est plus facile de gérer des projets à quatre que tout seul. C'est une démarche citoyenne. C'est un message à faire passer. Est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier modèle à tout prix ?
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par Biovallée.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce programme Biotop chargé de vous apporter un peu de lumière sur Biovallée. Nous allons parler d'une journée portée par la communauté de communes du Crétois qui propose à ses habitants, le 21 septembre 2013, une journée d'animation ludique et de découverte sur le thème de l'alimentation, qui permettra la découverte des productions locales, la réflexion sur les enjeux des circuits courts et proposera des spectacles pour tous les âges. Pour la présentation de cette belle journée en perspective, j'ai le plaisir de rencontrer dans les locaux de la CCC Paul Vindry, élu de Mirabel et de la communauté de communes du Crétois, en charge des dossiers environnement et agriculture. À ses côtés, Louise Riffard, chargée de mission environnement de la communauté de communes du Crétois. Mais avant d'aller plus en avant sur la présentation de cette action, une première question en rapport avec le contexte qui conduit une intercommunalité à travailler aujourd'hui sur l'alimentation, mais peut-être sur des sujets beaucoup plus transversaux en amont, qui sont des politiques de développement durable, écologique et alimentaire. Paul Vindry.
La communauté de communes du Crétois a toujours adhéré aux actions transversales dans une optique de vallée de la Drôme. Le développement de production durable et d'intégrer aussi tout ce qui est développement durable en termes de production en liaison avec des circuits courts. Dans ces grandes actions transversales des grands projets régionaux PSADER et puis Biovallée, cette année, on a décidé de mettre une focale sur la communauté de communes, ciblée sur l'alimentaire, comment essayer de comprendre, de faire comprendre aux gens, de changer d'habitude alimentaire avec la saisonnalité, avec l'approche approvisionnement proche, circuit court et tout ça, etc. Un aspect ludique qui doit toucher les enfants, la famille et ainsi que plus tard même les parents et peut-être grands-parents qui vont bien venir. Mais pour globalement nouer les politiques, c'est important de faire passer le message pour qu'effectivement le changement et goûter avec plaisir amène à concevoir des goûts différents qui peuvent déstabiliser par certains moments parce que c'est du changement, mais c'est aussi toute une richesse et surtout de pouvoir apprécier mieux ce que l'on mange. Ça, c'est important. C'est aussi une qualité de vie qu'on essaye de développer dans la région.
L'actualité démontre qu'à bien des moments, l'alimentation qui arrive dans leurs assiettes n'est pas forcément toujours d'une grande qualité. Est-ce que pour vous, mettre le repas et le plaisir de manger en avant, c'est aussi un moyen de promouvoir d'autres approches de l'alimentation ?
C'est vrai que quand on regarde en budget des ménages, la part alimentaire a baissé depuis de nombreuses années. On est aux alentours de 10%. Mais ce qui est important, c'est que il y a une notion, pour moi, la notion d'alimentation équilibrée et de goûter avec plaisir, c'est aussi par rapport à une rationalité de temps. C'est-à-dire que ça demande effectivement d'organiser, ça demande de faire vivre un repas, mais aussi par rapport à ça, c'est de prendre en compte la saisonnalité des produits proposés dans des approches circuits courts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger des mandarines toute l'année, ça c'est clair, que les pêches s'arrêtent en septembre, fin août, début septembre, qu'après il faut passer aux pommes. Tout cet ensemble de choses fait qu'il y a une chronologie et qui globalement, je crois, amènera à avoir une alimentation mieux équilibrée et en plus, ce qui n'est quand même pas négligeable, un développement du goût. Plutôt que d'avoir toujours des choses faites par l'agroalimentaire, très salées, qui ont toujours une approche du même séduction en termes de goût, je crois que revenir sur des produits simples, courts, et développer des goûts, et puis enregistrer cette palette-là, je crois que c'est quelque chose qui est important pour le développement personnel et en même temps pour un bon équilibre alimentaire.
Le travail d'une communauté de communes, c'est aussi, et peut-être avant tout, de travailler auprès des citoyens, mais aussi de leurs enfants. Vous conduisez des actions similaires dans les cantines. Vous vous interrogez, en tout cas, sur ce qu'il serait possible de transposer sur l'alimentation collective.
Alors, au niveau des cantines municipales, il est bien clair qu'au départ, la compétence, c'est la mairie. Nous, communauté de communes, nous prenons les cantines qui sont les plus motivées pour essayer de changer ses habitudes, pour essayer de mieux rationaliser, d'éduquer en même temps les enfants. Ça va à partir du bruit dans la cantine, apprendre à déguster, à ne pas avoir peur du nouveau goût. Enfin, c'est un ensemble de choses pour que, effectivement, la découverte soit là et puisse arriver régulièrement dans la cantine. Que ça ne soit pas un temps de parenthèse, bruyant, où il n'y a rien qui se passe, sauf peut-être quelques querelles ou des trucs comme ça. Je crois que c'est important qu'à un moment donné, comme chez soi, le temps du repas soit un temps de présence, de discours et de découverte.
Quels sont finalement les enjeux principaux pour une communauté de communes sur ce type de thématique et de politique ?
Les enjeux principaux pour la communauté de communes, c'est de développer un territoire de façon équilibrée et du coup améliorer la qualité de vie de ses habitants, mais aussi de ses acteurs économiques, que sont les agriculteurs, les commerçants, etc. Un des objectifs de cette journée, c'est effectivement de sensibiliser la population aux enjeux de l'alimentation locale, donc les enjeux environnementaux, les enjeux de qualité de vie, de santé, mais c'est aussi sensibiliser aux enjeux économiques de l'alimentation. Quand une famille consomme des produits, des fruits, des légumes, du fromage qu'il achète localement à des productions locales, elle fait vivre le producteur, le transformateur, s'il s'agit de quelqu'un de différent, mais souvent le producteur transforme ses fromages en ce qui concerne les producteurs locaux. Et puis, éventuellement, les commerces aussi de proximité qui commercialisent ces produits, ces productions locales. Donc, l'idée qui est aussi portée par l'association Court-Circuit qui sera présente cette journée-là, c'est de sensibiliser les gens au fait qu'une alimentation locale, c'est quelque chose qui améliore leur qualité de vie, le goût, comme le disait Paul Vindry, le plaisir de manger, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui permet d'enrichir le territoire, qui permet une meilleure rémunération des producteurs par une rémunération directe, ou du moins plus courte que quand il s'agit de producteurs de l'autre bout du monde, et puis qui permet voilà de conserver la richesse sur le territoire le plus possible, et donc du coup d'améliorer la qualité de vie de tous.
Vous avez évoqué quelques partenaires qui se sont engagés à vos côtés pour construire cette journée. On pourrait peut-être revenir un petit peu sur la partie prenante et l'énergie que les producteurs ont pu mettre à vos côtés.
En ce qui concerne les producteurs, on a essayé de mobiliser les producteurs du territoire pour qu'ils ouvrent la porte de leur exploitation. Donc il y aura des visites de fermes proposées dans la matinée, notamment la maraîchère Madame Grigoriev sur Piégros-Laclasse qui proposera la visite de son exploitation, et puis une exploitation en élevage sur Mirabel et Blacon. Les producteurs seront aussi présents lors du temps du goûter avec l'association Court-Circuit pour faire déguster leurs produits et puis échanger avec les personnes qui seront présentes sur l'enjeu pour eux de commercialiser local. Voilà, de faire découvrir en direct leur production à leurs clients, de pouvoir évoquer la façon dont ils ont été produits, les difficultés qu'ils ont éventuellement rencontrées au niveau météorologique, expliquer pourquoi une saison, une production est plutôt comme ça, ou etc., etc. Les autres acteurs qui se sont impliqués dans cette journée, c'est par exemple la MJC de Oust-sur-Scie qui va proposer des animations pour les jeunes publics, et puis l'association des commerçants et artisans de proximité de Oust-Piégros Mirabel, qui proposera une tombola, en tout cas qui va offrir des lots de tombola, tombola qui sera gratuite, mais réservée aux participants des animations. Et puis après, il y a par exemple l'association de théâtre de Oust-sur-Scie qui s'appelle Graines de Seine, qui a écrit et mis en scène une pièce de théâtre sur le thème de l'alimentation locale, spécialement pour cette journée, qui présentera sa pièce à Oust-sur-Scie à la salle des fêtes à partir de 20h. Le syndicat mixte de la Vallée de la Drôme, via le PSADER justement, nous aide à financer cette journée. Et les Bio-Vallées sont partenaires de cette journée par un accompagnement technique et de communication, etc.
On peut avoir une idée sur le coût de ce type de journée pour une communauté de communes ?
Alors, en dehors du temps de travail, cette journée, 2 500 euros peut-être. 2 500 euros.
Comme toute action un petit peu militante, un petit peu parallèle de sensibilisation, c'est qu'on a souvent l'impression de travailler pour ceux qui sont déjà convaincus. Est-ce que vous avez ressenti, au travers de cette organisation de journée, qu'il était possible de rentrer en contact, ou en tout cas que certaines personnes tendaient un petit peu plus l'oreille, peut-être pas pour s'engager cette année, mais que la prochaine, ils en feraient partie ? Paul Vindry.
Je pense que avec les scandales alimentaires à répétition que le média diffuse abondamment, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on a fait une approche très ludique de cet aspect-là. En sens qu'on va toucher effectivement, dans un premier temps, plutôt l'aspect jeune avec des jeux, tous, etc. Mais les parents sont présents, donc participeront, donc pour que ça soit une démarche un peu collective de la famille. Après, à pied gros, c'est plus quelque chose par santé équilibrée, par l'exercice. Donc, on va en même temps faire une démonstration de ce qui se fait comme activité dans ce gymnase et qui se terminera globalement au moment du goûter par une discussion avec une diététicienne sur justement le choix de type de goûter entre viennoiserie, fruits, enfin, etc. Voilà les grandes lignes. Bon, et le soir, ça sera plus familial et peut-être une classe d'âge un peu supérieure si les enfants veulent aller se coucher, mais pour les plus jeunes. Mais ça sera une pièce de théâtre ludique qui présentera effectivement un thème sur l'alimentation et qui aura tout à fait, pour faire rentrer un peu dans les cerveaux, sur la tête, les choses qu'effectivement, ce changement, c'est peu de choses. Effectivement, sauf qu'au début, il faut mettre le premier pas et après découvrir les choses qui font que c'est meilleur, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur au goût et c'est aussi meilleur pour la région puisque la valeur ajoutée reste dans la région.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Au final, les consommateurs ont toujours l'impression qu'il y a et peut-être qu'elle est légitime d'ailleurs, qu'il y a un surcoût sur le choix d'une alimentation peut-être plus responsable, de meilleure qualité. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Dans ce dossier-là, tout ce qui a été fait sur les cantines scolaires municipales, je ne suis peut-être pas le dossier vraiment très à fond, mais avec Agricourt, on voit que les prix moyens du repas n'ont pas augmenté de manière très sensible. Le fait de passer avec, par exemple, du bio, d'intégrer du bio en proportion un peu significative. Parce que quand on fait un peu, il faut regarder globalement la comptabilité globale d'une cantine. Il y a quand même beaucoup de choses qui se jettent, qui sont pas mangées, tout ça, etc. Et quand on met l'ensemble des personnels, des enfants, des surveillants, tout ça, pour essayer à ce que chacun prenne suffisamment sa part, goûte, etc., c'est déjà par le moindre déchet, c'est des coûts qui ne sont pas vus immédiatement, mais qui sont très très importants dans les cantines. Donc globalement, on n'a pas un prix de repas qui augmente très sensiblement dès lors qu'on met un soin à l'alimentation et avec des produits locaux, voire bio de toute façon.
Mais à ce jour, il y a déjà des gens qui ne peuvent pas se payer la cantine pour leurs gamins. Ça veut dire que le prix moyen pratiqué, qui doit tourner autour de 3 euros, 3,50 euros sur le prix d'un repas, est déjà trop élevé. C'est pour ça que je parlais de surcoût, c'est que finalement, ça ne va pas favoriser des personnes qui ont besoin de mettre leurs enfants à la cantine, ils ne pourront pas le faire. Louise Riffard.
La part du budget familial réservé à l'alimentation a beaucoup baissé depuis quelques dizaines d'années. Donc effectivement, on a des besoins qui sont supérieurs à ceux qu'on avait éventuellement il y a 30 ans. Mais augmenter un petit peu le budget qu'on alloue à l'alimentation peut permettre, par exemple, déjà permet de manger plus sainement et donc éventuellement d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, ce qui peut... Alors sur un foyer, c'est peut-être pas forcément significatif, mais sur un territoire, ça peut l'être au niveau des coûts, des frais qui sont dépensés par une population sur des frais de santé, etc., qui sont liés à des problèmes d'obésité, de diabète, qui ont un lien avec l'alimentation. Donc avoir une meilleure alimentation peut effectivement engendrer un petit surcoût sur le moment, mais peut réduire quelques frais qui sont induits d'une alimentation plus salée, plus grasse. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que on consomme de plus en plus de produits transformés ou de plats préparés, ou de choses comme ça, qui coûtent, eux, beaucoup plus cher que des produits frais et qu'on achète... le fait d'acheter des carottes râpées coûte beaucoup plus cher que d'acheter des carottes que l'on râpe soi-même. Alors le problème qui revient, c'est le temps passé. Et effectivement, là, c'est toute une organisation du temps à repenser. Autrefois, il y a 40 ans, c'était les femmes ne travaillaient moins pour avoir le temps de préparer à manger. Aujourd'hui, elles travaillent, ce qui est complètement logique. Et donc forcément, le temps de préparation des repas a beaucoup baissé. L'augmentation des consommations de plats préparés a augmenté. Et c'est ce qui a entraîné justement un surcoût des produits alimentaires. Donc reprendre un petit peu plus de temps pour préparer à manger peut permettre de gagner en termes de coûts sur des produits qui sont de meilleure qualité, mais qu'on n'achète pas transformés. Voilà. Donc effectivement, c'est la réflexion alimentaire, c'est une réflexion sur la façon dont on fait les repas, la façon dont on mange, en fait, et c'est un peu plus global. Donc c'est pas forcément simple, mais il y a des choses qui existent. On peut intégrer des produits locaux de façon partielle. On n'est pas obligé de changer la façon dont on mange à 100% du jour au lendemain, quoi. C'est une évolution lente et progressive.
Parce que dans les perspectives de la communauté de communes, il y a déjà des idées pour favoriser, outre le fait qu'on peut aller directement à la ferme, bien sûr, mais de favoriser le développement de marchés qui sont encore plutôt timides sur la communauté de Piégros, Mirabel et Oust. Est-ce que vous avez des perspectives en termes de vente directe, Paul Vendry ?
On a quelques approches avec Circuit Court et une autre association aussi qui travaille à une centralisation de produits biologiques sur la vallée, de manière à ce qu'on puisse arriver, c'était pas forcément l'aspect panier, mais peut-être arriver dans certaines communes à faire une certaine centralisation des commandes une fois par semaine, de manière à ce que ça soit plus simple. Mais D'une manière générale, il faut que les gens sortent de leur tête le budget alimentaire égale le caddie qui sort de la grande surface. Ce sont deux choses différentes. Et c'est vrai qu'en mettant plus de temps, on diminue très sensiblement la part de l'alimentaire dans l'ensemble du caddie de la grande surface. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, éplucher des légumes, c'est prendre des légumes de saison. Faire attention que ça ne vienne pas de l'Afrique centrale, etc. C'est effectivement, mais là, on a des prix quand même beaucoup plus chers. Prendre des produits locaux et faire sa cuisine, c'est deux saisons, c'est quand même globalement, en termes de budget, une diminution très sensible du poste alimentaire. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que nous, politiques, on fera tout ce qui est nécessaire pour qu'effectivement, le circuit court se développe, parce qu'à un moment donné... C'est aussi une garantie au niveau du consommateur, c'est-à-dire que la certification se fait par la relation directe avec le producteur, voire parfois peut-être avec un petit intermédiaire, mais toujours local. Et on a toujours cette notion d'économie locale qui nous paraît importante sur cet aspect production et consommation. Il n'y a pas de raison que la valeur ajoutée parte sur d'autres, principalement des industriels, et qu'après, globalement, cette valeur parte globalement de la région. On est important, on n'est pas une approche uniquement autarcique au niveau régional, mais l'aspect économique, pour nous, est quelque chose de très important politiquement.
On parle souvent aussi d'autonomie alimentaire. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez aussi au niveau d'un territoire ?
On sait qu'en termes politiques, on a géré plutôt des changements, des évolutions, mais qui ne sont pas non plus... Ce n'est pas une approche trop manichéenne des choses. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on n'aura pas de produits. On aura effectivement des tendances, très certainement. Si un jour, le transport a un coût réel... parce qu'actuellement, le transport coûte pas cher, que ce soit par bateau, etc. Si on a à un moment donné, avec les problèmes d'énergie, des coûts de transport qui augmentent d'une manière sensible, effectivement, la redistribution redeviendra plus locale. On va réduire les temps de transport et tout ça, etc. Et on s'opposera effectivement l'approche de recréer peut-être, comme ça se passe, comme ça s'est fait dans d'autres villes dans la région Rhône-Alpes, de marcher en périphérie de ville, de ceinture maraîchère en périphérie de ville et tout, etc. Mais je pense que si effectivement la demande est là, les producteurs sont prêts et on a le climat pour ça, les équipements hydrauliques pour faire pousser et tout, etc. Donc je crois que si effectivement, en restructurant petit à petit, on peut très bien arriver à retrouver une relative autonomie alimentaire, je ne dis pas à 100%, mais sur les biens de première nécessité, on peut très bien y arriver à faire quelque chose de tout à fait cohérent en termes de proximité.
On va revenir sur la présentation de cette journée pour refermer cette émission. Louise Riffard, donc, est-ce que vous pourriez nous faire un petit condensé, un petit résumé de ce programme complet qui s'adresse à tous ?
Oui, pas de souci. Alors en fait, la matinée se déroulera à Mirabel et Blacon, aux alentours de la salle des fêtes, à partir de 9h, avec des animations et des jeux proposés, donc, comme je disais tout à l'heure, par la MJC, l'association Court-Circuit principalement. Donc ouvert à tous et pour tous les âges. À 11h, il y aura un petit spectacle plutôt à destination des jeunes publics, réalisé par la compagnie Oupenco, sur le thème de l'alimentation. Des visites de fermes seront aussi proposées au départ de la salle des fêtes de Mirabel dans la matinée, avec une mise en place de covoiturage proposé. Le midi, 4 restaurants du territoire vont proposer un repas 100% produits locaux. L'après-midi se tournera autour du thème de la nutrition, donc c'est-à-dire la relation entre alimentation et activité physique. Donc ce sera au gymnase de Piégros-Laclastre avec des animations sportives et physiques proposées en démonstration ou en pratique, en test. Un goûter dégustation avec l'association Court-Circuit et des producteurs et une discussion, un petit débat, comme le disait Paul tout à l'heure, avec une nutritionniste. Et la soirée à la salle des fêtes de Oust-sur-Scie avec l'association Graines de Seine qui proposera sa pièce de théâtre écrite pour l'occasion et qui tiendra une buvette avec des boissons locales. Voilà.
Merci Louise Riffard. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutaient que vous êtes chargée de mission environnement à la communauté de communes du Crétois et que nous étions aussi en compagnie de Paul Vindry, donc élu de Mirabel et membre du bureau de la CCC en charge des dossiers environnement agriculture. Merci encore.
Biotop. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.